Condon. Yes. This nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. Yes. I have a dream.
Face à l'injustice, à ce pouvoir qui ne daignait pas l'entendre, Martin Luther King a choisi de désobéir, de se rebeller, de crier son ras-le-bol tout en restant non-violent. Il incarne avec Gandhi les valeurs de la désobéissance civile. Plus près de nous, en Europe, la situation politique fait de plus en plus de mécontents. Le climat social se dégrade et les voix s'élèvent.
Parce qu'aller manifester ou aller faire, ça ne dérange plus personne. Hein, tu vois, quand il y a 1000 personnes ou 10 000 personnes qui descendent dans la rue, comme en France, quand même la loi est passée. Hein. Donc ce n'est pas ce genre d'action qu'il faut, disons, organiser, mais trouver d'autres solutions qui puissent obliger les autres à réagir.
Sidi Raouf, deux membres du groupe Désobéissance Civile Belgique, ont eux aussi fait le choix de refuser d'obéir aux règles qu'ils trouvent injustes. Ils n'hésitent pas à passer à l'action pour réveiller le citoyen.
Mais je crois que l'important, c'est de montrer aux gens qui regardent leur téloche à ce moment-là qu'il y a des gens qui s'organisent, qu'il y a des gens qui disent non. Le 21 juillet, quand il y a toutes les armées qui défilent et qu'on dit qu'il y a 13 mecs qui ont manifesté pour ça, mais ça montre que ce jour-là, effectivement, il y avait des milliers de personnes qui étaient à cette manifestation pour l'armée, pour le roi, etc., mais qu'il y avait 13 personnes qui étaient contre. Et c'est important de le dire.
Mais oui.
Et c'est important de poser cet acte-là. Et même s'il est symbolique, on a agi. Et en fait, il y a plein de gens qui font ça, puisqu'il y a plein de nouveaux collectifs désobéissants qui se créent de plus en plus avec la crise. Ça n'a pas arrangé les choses. Et voilà, et donc c'est, la première chose, c'est qu'il y ait une voix contre, parce qu'il n'y en avait pas avant, finalement.
S'opposer aux injustices, quoi, finalement. En résumé, il y a des injustices et il faut les dénoncer, s'y opposer, créer quelque chose contre ça. C'est ça le principe.
Mais quelle est la place de ce genre d'association dans une société démocratique telle que la nôtre ? Zoé Genot, députée écolo au Parlement fédéral.
Je dirais le travail avec le terrain, que ce soit eux, des collectifs, je dirais, plus spontanés ou des ONG plus structurées comme la Ligue des droits de l'homme, une série d'autres acteurs en matière asile, c'est hyper important sur les matières sociales. Mais là, on travaille aussi pas mal avec les syndicats, mais on est tout le temps en lien avec le terrain parce que nous, on est spécialistes de rien du tout. Donc, on est des généralistes qui avons un outil qui est différent, qui est celui de la possibilité d'interpeller les ministres, de faire des propositions de loi et autres. Mais cet outil n'est utile que si vous travaillez avec des gens qui sont ancrés sur le terrain.
Malgré leur utilité, ce genre de groupe de militants est perçu par les autorités comme fauteur de troubles. Fin septembre, un sommet européen se tient à Bruxelles. En marge de celui-ci, le camp No Border rassemble sur le site de Tour et Taxi des activistes venus de toute l'Europe. Point culminant de la semaine, l'euromanifestation contre l'austérité. Mais la manifestation tourne court. De nombreux témoignages soulignent la violence de la police ce jour-là. 4 personnes finissent à l'hôpital et des centaines sont arrêtées préventivement. La liberté d'expression et de manifestation est pourtant un fondement de la démocratie. Manuel Lambert, conseiller juridique à la Ligue des droits de l'homme.
On ne peut pas présupposer qu'une personne va commettre une infraction. C'est ce qu'a fait la police de Bruxelles en procédant à une arrestation massive de plus ou moins 200 personnes alors qu'elles n'avaient commis aucune infraction a priori. Certaines d'entre elles ne laissent pas penser qu'elles allaient en commettre puisqu'il y avait parmi elles des clowns, des musiciens. Donc voilà, c'est quelque chose qui était a priori abusif.
Un clown, membre d'Artiviste, un collectif qui a su allier la désobéissance au ludique, était au No Border.
Et les policiers, ils aiment bien les clowns ?
Ben, ils n'ont pas beaucoup le sens de l'humour, mais on essaye de les convertir, on essaye de les clownistaniser, donc avec notre farce armée et nos petites armes là, de dérision massive. Donc on essaye un peu de les clownistaniser pour qu'ils puissent...
Ils le vivent bien ?
Ah, il y en a certains qui ont sorti un nez de clown d'une voiture de police. J'ai déjà vu ça. Ça m'est arrivé.
Ok, ouais. Et ils vous ont pas embarqué ni rien ce jour-là ?
Eh bien, si, malheureusement, ils n'ont pas eu trop le sens de l'humour. Donc, ils nous ont emmenés faire un petit tour, visiter les charmants et cachots du roi. Donc, ils nous ont embarqués pour trouble à l'ordre public. Mais nous, les clowns, nous revendiquons le trouble à l'ordre public. Nous revendiquons de troubler l'ordre public. Voilà, la violence, elle est des deux côtés. Donc, nous, les clowns, on est entre les deux, tu vois. chez les manifestants, il peut y avoir aussi une certaine violence. Et nous, les clowns, on est là pour désamorcer cette violence qu'il peut y avoir entre les farceurs armés et les vrais farceurs, quoi. Donc c'est un peu ça le principe, quoi.
Et pour éviter les tensions, les associations de désobéissance prévoient des formations afin d'éviter qu'on en arrive là. Émilien, également membre d'Artiviste.
On apprend différentes choses, on apprend justement les différentes formes d'action. On apprend dans l'action comment se comporter. Et comment se comporter, ça passe par une compréhension de la personne qui est en face de nous. Que ce soit un policier, que ce soit un homme politique, un industriel, un patron, n'importe quoi. On fait beaucoup de mises en situation où on prend nous-mêmes aussi le rôle de la personne adverse pour apprendre à savoir comment elle se sent par rapport à l'action et du coup pouvoir rester non violent, puisque c'est quand même le mot clé dans la désobéissance civile, en tout cas tel que nous on la pratique. On sait qu'il y a d'autres choses qui existent, nous on entend rester non violent, que c'est la meilleure forme d'action et de militantisme, c'est pas la peine de détruire, de casser ou de quoi que ce soit. Je pense qu'il y a moyen de faire passer un message positif en restant soi-même positif, en fait. Voilà.
Et quand le collectif décide de s'approprier les rues d'Ixelles le temps d'un après-midi, voilà ce que ça donne.
En deux mots, pour la suite, peut-être que c'est ça qui est intéressant, c'est on va se concentrer essentiellement sur le lobby européen, sur le quartier européen, qui est une grosse bulle dans Bruxelles, et on pense que c'est notre devoir de Bruxellois de percer cette bulle, et en tout cas de la faire éclater au grand jour pour que les gens puissent savoir et comprendre ce qui se passe dans cette institution européenne, qui est importante maintenant, mais qui joue de mécanismes cachés, de pression financière, de pression industrielle, etc., dans les mécanismes de prise de décision. Et on pense que c'est important de faire quelque chose et de mettre ça au grand jour, quoi.
Et vous faites quoi précisément alors pour péter la bulle ?
Alors ce qu'on fait, on est en train d'en discuter en fait. On est en train de penser à des formes d'action en fonction de ce qu'on a envie de dénoncer dans ce système. Il y a la samba, il y a des clowns, il y a des marches, il y a des sittings, il y a toute une série de formes d'action en fait. Qui sont possibles. Ça n'a de limite que l'imagination en fait. Hein. Je pense qu'il faut toujours essayer de trouver la forme d'action qui correspond à son message et qui correspond au public et aux gens qu'on veut toucher en fait. Quoi.
S'il y a un groupe qui est passé maître dans l'art de la désobéissance, c'est bien Greenpeace. Actifs depuis presque 40 ans, leur méthode est devenue d'une efficacité redoutable.
Eh bien, on identifie des cibles.
Michel Genet, directeur de Greenpeace Belgique.
Et on essaie de justement influer sur le comportement de ces cibles-là. Comment est-ce qu'on fait ça ? Bah, d'une part, en général, en étayant notre position par des rapports qu'on essaie d'être, qu'on essaie d'avoir les plus solides possibles, les plus étayés possibles. Et puis une fois qu'on a ces rapports, on pratique ce qu'on appelle la confrontation directe, non violente. Donc ça veut dire qu'on met en place des actions qu'on estime toujours légitimes, d'où l'intérêt d'avoir des rapports qui étaient évidemment en opposition, ça veut dire du travail de recherche, etc., mais qui sont parfois illégales. On ne le fait pas pour le plaisir de faire de la désobéissance civile, même si honnêtement, je souscris plutôt à la désobéissance civile quand elle est juste. Enfin, mais en tout cas, quand elle est justifiée. Et nous, on a toujours une bonne justification pour ça, pour dire on s'oppose à telle boîte parce qu'on estime que, ou on s'oppose à telle décision du gouvernement parce qu'on estime qu'il y a des intérêts qui nous semblent supérieurs aux intérêts directs que la boîte défend ou quoi que ce soit.
Des intérêts supérieurs. Des actions toujours non violentes, mais assez spectaculaires pour attirer les médias. Un refus de s'incliner devant des règles qu'ils trouvent injustes. Voilà ce qui caractérise les groupes de désobéissance civile. Et à ceux qui pensent que le combat est perdu d'avance...
Bien sûr que l'objectif principal, c'est gagner, mais on a tellement d'amusement aussi par rapport à ça, où on fait ça dans la joie, la bonne humeur, etc., que pour finir, c'est toujours une victoire. Si on s'est bien amusé et qu'il n'y a pas trop de dégâts, bah, on est content.